De vous parler de mariage, en tout cas dans le cadre de mon introduction. Et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi j'aime beaucoup les fêtes de mariage. Et en ce moment, c'est la saison, on est en pleine saison de mariage. Et d'ailleurs, David et Angela ne sont pas là puisqu'ils assistent à un mariage dans le sud de la France. Quelque part, Angela est témoin. C'est une amie française d'enfance qu'elle connaît depuis des dizaines d'années, voilà, qu'il a invitée. Et voilà, on peut penser à Biarritz. Ok, ils sont à Biarritz. D'accord. Voilà. Et moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, ce qui me plaît, c'est... Tu parlais de complétude, c'est déjà au niveau esthétique, là, tout le monde est bien habillé, il y a une belle déco, il y a une belle ambiance, il y a un côté un peu poétique, comme ça, un côté un peu idyllique, c'est une parenthèse du quotidien. Ben, je me souviens notamment du mariage d'Elisabeth hein, et de Carlo à Wattwillers, c'était magnifique, le cadre un peu dans la forêt, là, voilà, dans la carrière, là, tout à fait. Et pour moi, c'est aussi... j'associe les temps de mariage aussi à des temps, bien sûr, d'émotion. On va accompagner les mariés, c'est des temps de joie. Mais aussi, j'associe ça à des temps parfois de rencontres surprenantes. On rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis des années, voire des décennies. On fait la connaissance de gens qu'on ne connaît pas. Et c'est comme si notre horizon était élargi. Et moi, souvent, quand je reviens de mariage, en tant qu'invité, eh ben, je me sens bien parce qu'il y a eu un tas de nouvelles choses qui se sont passées. Est-ce que je pense que vous voyez ce que je veux dire un peu ? Vous avez certainement déjà goûté à ça. Et j'aimerais vous parler, prendre comme toile de fond les noces de Cana, et ensuite à partir de là aller un peu plus loin. Je vais m'expliquer. Alors, tu n'as pas besoin de prendre le passage. Je vais simplement lire. Le passage n'est pas très long. C'est dans Jean 2:1. Il est dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, chez nous c'est le contraire, n'est-ce pas Alice? Chez nous on en avait là, en abondance. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous le dira. Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, je vous ai dit que je voulais utiliser ce passage comme toile de fond parce que le week-end dernier, avec quelques membres de l'Église Josué, on a assisté à un séminaire prophétique avec Pierre-Daniel Martin. Et moi, je ne sais pas si... Je pense que je n'ai pas vraiment l'esprit de synthèse, mais d'autant plus avec Pierre-Daniel Martin, vous savez, il parle de choses, il va dans beaucoup de directions. Et si on me dit, alors qu'est-ce qu'il a dit? Je serais incapable de te résumer comme ça en quelques minutes, de te faire un résumé. Moi, je n'en suis pas capable. Par contre, j'ai pris énormément de notes, et c'est un père spirituel pour moi, et je crois qu'il y a des choses que le Christ en lui a à nous dire. Et je voudrais juste donner quelques idées flash, on va dire, que j'ai relevées, qui me paraissent importantes, mais qui pourront être aussi complétées par ceux qui ont participé. Donc n'hésitez pas à le faire à l'issue de mon message. Alors, premièrement, Jésus fut invité avec ses disciples. Et je vous demande d'être un peu... de faire preuve d'un peu d'imagination et de vous dire que vous êtes invité à ces noces de Cana. Et je pense qu'on peut imaginer Jésus et ses disciples à la même table. Et ça nous parle de communion fraternelle Et ça, c'est ce que Marion elle avait relevé dimanche dernier, c'était tout frais après le séminaire. Elle a dit dans son introduction, dans le cadre de sa présidence, il faut quelque part que les liens soient renforcés, que les liens se tissent, se développent, le relationnel. Vivre des temps ensemble. Ça peut être la fête de la musique. Merci encore à tous ceux qui ont participé, à Alain, tous ceux qui étaient dans l'organisation, au groupe de louanges. Mais vivre des temps comme ça, informels, des temps de fête, des temps de joie ensemble, c'est extrêmement important. Autre point, à ce mariage, aux noces de Cana, il y avait donc des servantes et des serviteurs. Et je crois qu'on peut aussi s'identifier à eux, parce que sans eux, le mariage ne peut pas avoir lieu. Et Pierre-Daniel Martin, il nous a interpellés avec la question suivante. Il nous a dit, que peux-tu laisser sur terre ? Que peux-tu laisser sur terre ? Il disait même que cette question-là, elle est plus importante que tous les enseignements qu'on peut donner. Que peux-tu laisser sur terre ? Et le passage qui résonnait en lui, c'était 1 Jean 3,16, que je vais vous lire. Il est dit, nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, il a vraiment lourdement insisté sur la communion fraternelle. D'ailleurs, je crois que Manuela aussi, elle l'a dit avant, il me semble que ça a aussi été relevé peut-être dans ce séminaire ce week-end. C'est vital et on est appelé vraiment à le développer, aussi ici en tant qu'église locale. Et Père Daniel aussi disait que ce que j'ai noté, ce qu'on a déjà peut-être entendu à plusieurs reprises, c'est que le plus grand ennemi dans l'église, ce n'est pas le diable, bien sûr que c'est un ennemi, mais le plus grand ennemi, c'est la chair. Et je me souviens, l'autre soir, et Julie et moi, on s'est retrouvés et on a eu la même pensée tous les deux. On s'est regardés et on s'est dit, qu'est-ce qu'elle est moche, la chair, qu'est-ce que c'est moche. Mais voilà, suite à des choses qu'on avait vécues, c'est vrai que la chair, les tendances de la chair sont haïssables. Et d'ailleurs, la chair, elle ne peut pas soumettre à la loi de Dieu, donc ma chair, elle n'est pas meilleure que la vôtre. Tout à fait, oui, la chair comme tout à fait. Les tendances de la nature humaine, mais ça se traduit par une mentalité, tout à fait. Et après, par des pensées qui se transforment en actes aussi, oui. Et donc, il disait que, voilà, on devait entrer dans une mentalité de service, là, il n'y a rien de nouveau. Mais il disait qu'attention, il pouvait y avoir un glissement, c'est qu'on peut remplacer le royaume de Dieu par le ministère. Et ça, c'est un petit glissement subtil qui peut s'opérer. En gros, c'est comme là, si je suis là et je me dis, voilà, mon objectif, c'est d'être un bon orateur, c'est que, voilà, ensuite, on vient de me féliciter, que je reçois votre approbation, votre amour, parce que je vais faire maintenant et que ça, c'est mon objectif, ben là, on est à côté de la plaque. Alors que l'opposé, c'est simplement, tu sers et tu aimes. Tu sers et tu aimes. De l'identité émerge le service, et parfois il peut y avoir un mélange subtil, on peut être dans le contraire. C'est d'abord quelque part le service, et c'est le service un peu qui a un impact sur mon identité. Et ça, c'est dangereux, et c'est pas bon du tout. D'ailleurs, le Seigneur, il dit, lorsque tu donnes un festin, il est question donc de festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre. L'appareil. Donc, c'est-à-dire se donner, mais sans attendre en retour, sans attendre de félicitations en retour, mais même sans attendre d'amour en retour. Et parce que Pierre Daniel disait, c'était intéressant, que lorsque on est dans ce schéma-là, qui peut être très subtil, on peut vite glisser dans l'auto-justification quand quelqu'un va nous reprendre, justement. Et là, non, parce que j'apporte un message, mais c'est pour être aimé. En plus, là on vient me critiquer, et donc, oh là, ça atteint mon identité. On peut tomber dans l'auto-justification et ensuite dans la condamnation et l'auto-condamnation. Ça, ce sont des symptômes classiques de ce qu'on appelle l'esprit religieux. Donc, faisons vraiment attention à ça. Ne pas se décentrer du royaume, ne pas se décentrer des valeurs du royaume. Donc, parce que notre zèle, parfois, peut prendre trop de place, au détriment même des valeurs du royaume. Et là, on rate le coche. Ensuite, lors de, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des mariages, mais parfois on peut aussi être interpellé par des invités, par des tenues, par des attitudes, et en positif ou en négatif. Et là aussi, ce que j'ai retenu du week-end dernier, c'est tu es condamné à ne plus condamner. Si tu juges l'Église, tu te juges toi-même. Ça va tellement vite. Soyons honnêtes, ça va tellement vite dans nos têtes. Et pourquoi il dit ça ? Si tu juges l'Église, tu le juges toi-même parce que tu es l'Église, tout simplement. Donc il dit que ce n'est plus le temps de murmurer sur les autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit baigner dans une culture du silence quand quelque chose ne va pas, mais il faut aussi éviter la culture de la virulence. Entre les deux, il y a la culture de l'honneur, donc, et la culture de la transparence. Voilà, ni virulence, ni silence, mais transparence dans l'honneur. Et prier, ce qu'il disait aussi, c'est important, prier et chercher quelque part à ce que le meilleur chez l'autre se développe. Christ en l'autre. Parce que quelque part, vous savez, on est aussi, ça il l'a souligné, on est appelé aussi à faire preuve de beaucoup de patience entre nous, parce qu'on est tous en croissance. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Il y a des étapes, c'est graduel. Et parfois, voilà, donc on est tous en chemin. Et veillons vraiment à avoir cet objectif-là. Je veux le meilleur pour mon frère et ma sœur. Que Christ se développe pleinement en lui. Après, ce qui peut aussi arriver, c'est que parfois, voilà, on peut être tenté par le fait de condamner l'autre. Mais parfois, on peut aussi se condamner nous-mêmes et se rabaisser. Et là, il y a ce verset qui m'a vraiment interpellé, qui se trouve dans Philippiens 2:3, où il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et ça m'a fait réfléchir, parce que après une première lecture, on pourrait se dire mais ça suscite un complexe, ça peut susciter un complexe d'infériorité. Si je dois voir l'autre au-dessus de moi, c'est que je dois me sentir inférieur à l'autre. Et je me suis dit la chose suivante, une pensée toute simple que vous avez peut-être eue, mais si par exemple je dis à ma femme, oui, la parole me dit de te voir au-dessus de moi-même, mais elle doit faire exactement la même chose avec moi, comme moi je dois faire la même chose avec Alain, il doit faire la même chose avec moi, c'est-à-dire que moi je dois voir Alain au-dessus de moi, supérieur à moi, mais lui... Il doit me voir supérieur à lui. Et là, ça fait tilt, c'est bête peut-être, mais chez moi en tout cas, ça a fait tilt récemment. Et je dis, oui, c'est ça. C'est voir, c'est que chacun de nous a quelque chose à dire, a quelque chose de Christ en lui. Comme tu l'avais dit, Manuel, l'autre jour, on a une portion, aucune église n'a quelque part tout compris. Mais il y a des portions, la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et je pense que là, autour de nous aussi, dans les différentes églises, il y a des choses bonnes. Nous aussi, on n'est pas parfaits, mais on a notre couleur et des choses aussi très bonnes qu'on est appelé à partager. Et enfin aussi, considérez dans le même passage que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, c'est-à-dire ne pas oublier non plus ses intérêts. Considère aussi les intérêts des autres. Et là, on a cette image du corps. Et l'autre jour, effectivement, donc j'ai fait un petit accident de trottinette, je me suis cassé une côte. Et mon fils, un jour après, il s'est aussi blessé à l'école, grosse blessure au pouce. Et il me dit, oh, papa, tu sais, là, je vois que le pouce, c'est vraiment utile. Et moi, j'avais la même pensée avec la côte, parce qu'il y a des mouvements que je ne peux plus faire. Et je me dis, ah oui, là, on voit que tous les membres du corps... Eh bien, ils sont très utiles. On est tous dépendants les uns des autres. Et le Christ a dit, il nous a encouragés à savoir quelque chose. Il nous a dit que si on le sait et si on le pratique, on est heureux. C'est quoi ? Et il a donné un exemple très concret. Laver les pieds de l'autre. Donc, être prêt à s'abaisser en dessous de l'autre, se mettre déjà à son niveau pour le comprendre. Ça déjà, c'est important qu'on le fasse. Est-ce qu'on le fait toujours, se mettre au niveau de l'autre pour le comprendre et aller encore plus bas pour le servir, pour le bénir. Et donc aller plus loin dans le service Et je crois qu'il y a deux extrêmes à éviter. Parfois aussi, il faut le dire, les choses telles quelles, parfois d'autres peuvent abuser aussi de notre service. On tend la main, ils prennent le bras. Mais il y a un autre extrême, c'est quand tu tends la main à quelqu'un et il va juste peut-être oser, peut-être prendre, toucher ton petit doigt un tout petit peu. C'est-à-dire accepter aussi de se faire servir par les autres. Moi, titre personnel, je le vis en ce moment, j'ai du mal avec ça. Déjà comme ça, j'ai un peu de mal avec ça, de se laisser servir. Là, actuellement, par exemple, ma femme, elle doit mettre mes chaussettes. Elle doit s'abaisser parce que je ne peux pas le faire. C'est pas agréable. Mais accepter d'être vulnérable, accepter d'être dépendant de l'autre, donc ça, c'est aussi une très bonne école. Et ce que Pierre Daniel disait, c'est par rapport à cette notion de service qui est capitale, il dit que chacun de nous a un ministère. Chacun de nous a un ministère et que chaque ministère contient un aspect du cœur du Père. Ça, c'est précieux. Je répète, on a tous un ministère et dans chacun de nos ministères, quel que soit le ministère, il y a un aspect du cœur du Père. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Jean-Louis Auffay? Mais Luc, il ne compte pas. Jean-Louis Auffay, moi, jamais entendu parler. Quelqu'un? À part Luc, lui, ça ne compte pas. Non? Alors, tu peux me montrer la photo, s'il te plaît? Donc, la photo numéro 1, Jean-Louis Auffay, un héros. Un héros, enfin méconnu, en tout cas, moi je ne le connaissais pas. Et Jean-Louis Auffay, donc c'est un monsieur, voilà, donc pasteur, décédé il y a quelques jours. Et ça m'a touché, j'ai vu ça dans les DNA. C'est un monsieur qui m'a touché tout simplement parce que il a servi le Seigneur avec ses tripes. C'est lui qui était directeur, un des directeurs d'Amnesty International, qui lutte pour le respect des droits humains, pour la solidarité. Et je me dis, waouh, quel témoignage. Pasteur, directeur d'Amnesty International. Vous connaissez Scott Harrison? Peut-être, Johan, non? Scott Harrison, ça ne te dit rien? Pour montrer la photo. Alors là, bon, ce n'est pas grave si on ne voit pas son visage. Donc là, on le voit en famille. Et Scott Harrison, c'est aussi un autre héros des temps modernes. Et lui, il a grandi dans une famille chrétienne, brave garçon, jusqu'à ses 18-19 ans. Où il a décidé de s'éloigner du Seigneur et il a organisé des soirées dans des boîtes de nuit à New York et il a organisé des choses effroyables et il avait tout, les femmes, les voitures, le luxe et ainsi de suite, jusqu'au jour où, un peu comme le fils prodigue, il était un peu dégoûté de tout cela et il est revenu au Seigneur Jésus et le verset qui a fait tilt chez lui, c'est dans Jacques, c'est la religion pure et sans tâche devant Dieu le Père, c'est de quoi ? De visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et de s'éloigner des souillures du monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a d'abord, il est devenu photographe et il a voyagé en Afrique là, sur un bateau. Et il a vu que il y a un problème d'eau, que beaucoup de personnes n'avaient pas accès à l'eau potable. Et donc il a créé une petite, toute petite équipe dans un minuscule appartement de Manhattan. Et il a créé une œuvre caritative, donc pour que les personnes puissent avoir accès à l'eau. Et ça me parle aussi du fait de ne pas mépriser les petits débuts. Surtout jamais ne pas mépriser les petits débuts. Et au bout de 9 ans, il a réussi à collecter 200 millions de dollars. Et il a fait en sorte que 5 millions de personnes et accès à l'eau potable. Pour moi, c'est un héros vraiment des temps modernes. Et je me dis, waouh, ça sont des gens qui sont dans le corps du Christ. Il avait un fardeau parce qu'il a vu que les gens n'avaient plus d'eau. Il s'est levé, il a créé son équipe et le Seigneur a multiplié. Tu parlais de multiplication, le Seigneur a multiplié à tous les niveaux. Par rapport aussi aux relations, Pierre Daniel disait qu'il y avait un grand danger, ça me parle aussi, il disait le plus grand danger dans une relation, c'est d'abandonner. Il dit d'abdiquer, abandonner, dire ne plus investir dans la relation, laisser tomber. Ça peut se traduire par le fait voilà, je sais pas, de quitter des groupes, quitter des églises, quitter des personnes. Et il disait attention à cela. Il disait que l'amour, c'était aussi accepter ceux qui ne nous comprennent pas. Accepter ceux qui ne nous comprennent pas. Ça fait partie de l'amour. Et par rapport aussi, vous voyez, je fais un peu un lien entre la communion fraternelle et le service, parce qu'il y a un lien entre les deux, parce que parfois, il peut y avoir des petits frottements. Et Pierre Daniel disait aussi que parfois, le Seigneur veut peut-être moins de zèle, mais plus de renoncement dans nos cœurs. Ça, c'était intéressant. Parce que parfois, sous le coup du zèle et tout, on peut être fonceur et un peu trop foncé sur les gens quelque part. Parce qu'on voit l'objectif, mais on ne voit pas les gens. Donc les dons du Saint-Esprit, oui, mais aussi les fruits. Autre dimension aussi, donc Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. On est bien d'accord, il manquait du vin. Et moi, j'aurais bien voulu savoir ce que les serviteurs ont pensé à ce moment-là. Parce que c'est le vin qui manquait, et lui, il leur dit, remplissez d'eau ces jars. Alors, est-ce qu'ils se sont dit, il va mettre un petit produit? Non, mais sincèrement, parce que c'était son premier miracle. Qu'est-ce qu'il va faire? Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et ça me fait penser aussi à Pierre. À Pierre, par rapport à ce stataire, là, c'est une sorte de pièce de monnaie, là, parce qu'il devait payer l'impôt. Et donc, Jésus il dit, ok, tu vas à la mer, tu vas pêcher, le premier poisson que tu pêches, il y aura la pièce qui est dedans. Mais sincèrement, Jésus aurait été capable de dire, de faire un miracle créatif et quelque part de laisser apparaître la pièce dans la poche de Pierre, ou je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir, c'est que souvent, le Seigneur il nous demande de faire notre part, de faire un geste, comme pour les pains et les poissons. Et parfois, ça peut paraître fou, quoi, quelque part. Ça peut paraître... Enfin, fou, non, mais ça peut sortir de nos paradigmes, un peu de nos schémas de pensée. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, ça me parle parce que c'est quelque chose que j'ai entendu dès le début du séminaire. C'était une pensée personnelle. Mon fils fait preuve de plus de folie. Et ça a fortement résonné. Et fait, bien sûr, dans l'esprit. Fait preuve de plus de folie dans l'esprit et dans l'audace de la foi. Et je trouve entre nous aussi que Marie, elle fait preuve d'audace dans la foi, la mère de Jésus à ce moment-là, parce que lui, il lui dit... Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et ensuite, mon heure n'est pas encore venue. Moi, je l'aurais qualifié comme refus. Non, c'est pas le moment. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ça, c'est pour moi, c'est l'audace de la foi. Et ça me fait penser aussi à cette femme grecque. Vous savez qu'il y avait une fille possédée. Et elle lui dit, non, lui, il dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et elle répond, mais les petits chiens mangent les miettes des enfants. Elle est exaucée. Et ça m'a vraiment parlé, parce que, quelque part, dans ces deux cas de figure, c'était une maman qui voulait que sa fille guérisse, et dans l'autre cas de figure, c'était la mère de Jésus qui voulait que la fête ne soit pas gâchée. Ce n'était pas pour elle, ce n'était pas égocentrique. Mais... elles ont eu cette audace dans la foi, elles sont allées plus loin, elles n'ont pas freiné quelque part. Et ça me parle. Elles y sont allées. Et ça me fait penser aussi à cette parabole du juge inique, justement le juge qui craignait pas Dieu, qui s'intéressait pas aux gens et tout ça. Et donc il y avait une veuve qui insistait, elle dit « Ok, c'est bon, je vais lui donner raison, elle va me laisser tranquille. » Et là le Seigneur il dit « Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Et d'ailleurs, il leur adresse cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Donc c'est clair que si on était toujours exaucé tout de suite, il n'aurait pas eu besoin de donner cette parabole. Ne jamais se relâcher. Pour tous les sujets de prière qu'on a, qui sont récurrents aussi ces derniers temps, ne pas se relâcher. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous le dit. Et par rapport à ce côté audace, un peu folie de Dieu, j'aimerais encore ajouter un point suivant, mais là on va juste faire un petit intermède, comme pour les mariages. Je voudrais juste vous montrer un extrait de The Chosen, où on voit justement les noces de Cana. Bien sûr, c'est une interprétation personnelle, mais comme dit, ça doit juste. Je veux juste illustrer quelque chose. Même si on ne voit pas bien, c'est pas grave.
Ils n'ont absolument aucune idée de qui est assis devant eux.
Tu as compris ?
Ça donne envie de redevenir enfant.
Mais en tout cas, par rapport au mariage, je pense que je garde d'excellents souvenirs à vie de mariage auquel j'ai participé étant enfant. Et là, vous le voyez aussi, on voit le Seigneur qui passe du temps avec les enfants. On n'en sait rien, mais on peut l'imaginer. Et j'aime beaucoup ce côté-là d'enfants qui sont quelque part assis à la même table que le Seigneur, qui peut-être fait de l'humour avec eux, qui leur partage peut-être des petites choses à la fois simples et profondes. Et après, on avait vu aussi à un moment donné des enfants ensuite qui vont jouer ensemble. Ben moi, ça me parle parce que moi, je voudrais être comme ces enfants-là. C'est-à-dire recevoir dans la joie tout ce que le Seigneur a à me dire et après aller quelque part jouer avec mes frères et sœurs. Quelque part ensuite m'épanouir dans cette vie de foi avec vous tous. Et Pierre Danel a confirmé le week-end dernier ce que j'avais reçu personnellement, c'est qu'il a dit « on est appelé à être comme des enfants ». Ça, c'est très très fort, à nous émerveiller aussi du Seigneur comme des enfants, à apprendre à nous émerveiller des choses simples, des choses simples. Ça, il l'a dit même à plusieurs reprises, et je crois que c'est vraiment important de ne jamais perdre cela. Moi, en tout cas, quand je parle des choses de Dieu à ma fille Lilia, qui a 9 ans, quand je vois ses yeux qui pétillent, mais, wow, mais ça me touche profondément. Et je me dis, mais ce qu'elle a là, je le veux aussi, je veux garder ça. Et je me souviens un jour, juste pour prendre encore un autre exemple par rapport à Pierre-Daniel Martin, c'est qu'un jour, il était chez moi et on devait le conduire à une soirée à l'église Josué, il y a quelques années de cela, et on était en retard. Et lui, on se gare sur le parking de l'église Josué et il voit 2 petits oisillons comme ça. Il commence à s'émerveiller, à les regarder. Alors que moi, à sa place, la première chose, j'aurais ouvert la porte et j'aurais accéléré le pas pour être à l'heure. Et lui, il regarde comme ça, ses oisillons. Et il s'émerveille et il me dit, tu vois, comme la création parfois peut nous parler. Et quand je vois ces 2 oisillons, ça me fait penser au passage où il est dit, que j'aime relever, il est dit, c'est Matthieu 6, 26, « Regardez les oiseaux du ciel. » Il ne sème ni ne moissonne et il n'amasse rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Il était émerveillé par cela, comme un enfant. J'ai l'impression d'avoir un enfant à côté de moi. Et ça, ça m'a parlé aussi, ça je l'ai retenu. Et aussi, une autre image que j'ai reçue, c'est aussi par rapport à tous ces domaines du miraculeux, du spirituel. J'ai vu un enfant qui était à... Qui se trouvait à côté de plusieurs arbres, et il y avait un vent fort. Il y avait d'autres enfants qui étaient là, et lui, il examinait cette feuille, une des feuilles de l'arbre, et il regardait, il essayait de comprendre la forme, ainsi de suite. Et pendant ce temps, les autres enfants, eux, ils couraient, ils essayaient d'attraper les feuilles, ils jouaient avec le vent, et ainsi de suite. Et ce que j'ai compris, c'est quelque part, il faut les deux. Bien sûr qu'on est appelé à examiner les choses de Dieu, mais on est aussi appelé, je ne dirais pas, on est appelé à s'émerveiller, à s'épanouir aussi, sans cet esprit cartésien. Je trouve que parfois, en tout cas c'est mon cas, parfois on veut peut-être couper les cheveux en 4 et je crois qu'on va trop loin. Et d'ailleurs, c'est fort ce que Pierre Danel aussi a dit, lui, qu'un dernier, il a raconté que le Seigneur l'avait dit à un moment donné, arrête de penser. Arrête de penser. Bien sûr qu'on n'a pas éteint notre cerveau, mais parfois, nous, Français, on peut aller un peu trop loin dans cette direction. Et par rapport aux enfants, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est lorsque Bill Johnson, un jour, qui a été interviewé, il parlait, vous savez, de ces fameux nuages de gloire qu'on peut voir à Bethel pendant les temps de louange et d'adoration. Vous savez, ça a été filmé et il a mis quelques années, d'ailleurs, à autoriser un réalisateur à le diffuser parce qu'il ne voulait pas que les gens quelque part, il se concentre sur les signes, mais qu'il se concentre sur celui qui envoie le signe. Et donc, au bout de quelques années, ça a été diffusé. J'ai vu cette vidéo. On voit vraiment comme ça, comme une sorte de vent, de poussière d'or, comme ça, qui va dans tous les sens. Et lui, il disait que lorsque ça lui est arrivé dans l'assemblée, mais il ne savait pas quoi faire. Il dit, est-ce que je devais continuer à louer le Seigneur? Est-ce que je devais me prosterner? Est-ce que c'était un moment comme ça, saint, sacré? Et il me dit, à ce moment-là, j'ai observé les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils sont contentés d'accourir et de suivre, de courir vers ce nuage quelque part et de s'émerveiller. Et je trouve que c'est une belle leçon. J'imagine bien Samuel, tu vois. Alors lui, tu vois, il y a un nuage de gloire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et lui, je le vois courir et rigoler et ainsi de suite. Ensuite, un autre point, qui va être introduit par une petite vidéo très courte d'une minute, en lien nouveau avec les noces de Cana. Qui a été relevé, et là je voudrais te remercier Geneviève pour ce que tu as fait avant, autre point qui a été relevé le week-end dernier, c'est l'importance de la danse. De la danse. Et Pierre Daniel donnait comme exemple Bollywood. Vous savez, Bollywood, là c'est. Et souvent c'est des films d'ailleurs de mariage, des mariages, avec, enfin des histoires d'amour qui se terminent bien avec un mariage, voilà, en fin de film. Et l'importance de la danse en Inde, et lui disait que c'était prophétique. Il disait qu'on était vraiment appelé à manifester la joie du Seigneur corps, âme et esprit, et aussi avec notre corps. Et par rapport à cela, parce que c'était une dimension en plus de l'Église primitive, je voudrais juste vous citer Ambroise de Milan, donc c'était un homme de Dieu du 4e siècle qui a conduit d'ailleurs Augustin au Seigneur, et lui il a parlé au sujet de la danse, et je trouve ça très intéressant, parce qu'après ça s'est perdu au cours des siècles. Lui dit, donc 4e siècle, hein, après Jésus-Christ, « Dansons comme David le faisait. N'ayons pas honte de démontrer notre adoration à Dieu. La danse liée à la foi est un témoignage de la grâce vivante de Dieu. Celui qui danse, comme David dansait, danse dans la grâce. » Waouh ! Et je crois que c'est vraiment c'est quelque chose à retrouver. Donc merci Geneviève, quand je t'ai vu avec les bannières, je dis bah, c'est exactement ça. Donc merci beaucoup. Donc la danse, et comme vous l'avez vu aussi dans ces extraits, il y avait le vin. Et après vous pouvez vous dire, ouais mais finalement, il buvait beaucoup à cette époque-là, il devait être souvent ivre, mais il faut savoir qu'il diluait quand même fortement hein, le vin. Donc il disait aussi que il pouvait perdre jusqu'à un tiers ou un dixième de sa teneur en alcool. Donc quelque part, c'était beaucoup moins fort. Parce qu'à l'époque aussi, ils n'avaient pas de moyens techniques pour purifier l'eau. Et le vin pouvait même être moins dangereux quelque part que l'eau. Donc ils buvaient pas mal de vin, mais c'était quand même fortement dilué. Ça, je voulais le préciser. Mais c'est quand même fort de se dire que le vin, cette eau transformée en vin, c'était le premier miracle. Et je trouve que c'est lourd de signification, parce qu'on est d'accord, c'est une préfiguration du sang que le Seigneur va verser à la croix. Mais moi, ça me parle parce que ils étaient en manque de vin, et lui, donc, il va transformer l'eau en vin. Qu'est-ce qui va se passer? Non seulement il va pourvoir à la quantité, mais aussi à la qualité. Et moi, ça me parle de ce fameux chant, voilà, le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, pour mon péché, mais suffisant à tous égards, au niveau quantitatif, qualitatif. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me dis, mais c'est vrai que l'humanité était appelée initialement à vivre quelque part une communion avec Dieu, être sans arrêt dans cette dimension de fête, et ça a été gâché, rompu par le péché. Mais là, c'est comme si, parce que l'homme était appelé à gérer, comme des gens étaient appelés à gérer ce mariage, mais il manquait de vin. Pourquoi ? Et donc, il y a eu des erreurs, des erreurs de calcul, des fausses décisions, des maladresses. Mais il pourvoit à ce manque et à ce problème de gestion et de manière glorieuse. C'est là où il manifeste sa gloire, donc aux noces de Cana, comme il le fait pour toute l'humanité à travers ce miracle surnaturel. Et donc, quelque part, voilà, ce sang nous ouvre les portes de la joie, de la vie éternelle. Quelque part, il nous ouvre les portes d'un mariage éternel, de noces éternelles avec le Seigneur. Et là, il y a d'ailleurs un passage qui est fort et qui se trouve, si je le trouve, oui, il est dit dans Amos, là on parle de temps messianique, de l'âge messianique à venir, par rapport au vin. Il est dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui fout le raisin, celui qui répand la semence, où le mou, c'est-à-dire c'est, le mou c'est un jus de raisin qui n'a pas encore fermenté, ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Et d'ailleurs, c'est ce même passage est aussi cité en acte 15, en tout cas le verset précédent. Et là, bien sûr, dans le vin, on a aussi cette dimension surnaturelle. Je crois que c'est Marguerite. Tu disais avant qu'il y a une soif des Français. Et c'est vrai qu'il y a un sondage qui a été effectué récemment qui montre que l'intérêt des Français pour le spirituel ne cesse d'augmenter. Et je suis tombé sur un sondage qui disait, et ça c'est bon, que 43% des Français croyaient au miracle. Moi je crois que si on m'avait posé la question, on dit, à votre avis, combien de pourcents de Français croient au miracle ? Je ne crois pas que je serais allé jusqu'à 43%. Donc ça, c'est le côté positif. Après, le côté négatif, c'est que 32% croient à l'astrologie. Mais c'est à nous de leur faire découvrir le bon breuvage, le bon vin. Et moi, ça me fait penser juste à ces serviteurs. Aux noces de Cana, ces serviteurs qui ont vu le miracle de leurs yeux, qu'est-ce qu'ils ont fait les jours après le mariage ? Est-ce qu'ils n'ont plus rien dit ? Ils ont gardé ça pour eux ? Est-ce qu'ils ont raconté ça à leur femme, à leur enfant ? Moi, je crois qu'ils l'ont fait. Et que c'était peut-être déjà des pseudo-messagers de l'Évangile, je ne sais pas, mais en tout cas, qui disaient, il y a un miracle qui s'est produit, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et je crois que nous, on est appelés, comme tu l'as dit, je crois Marguerite aussi, on est appelés à être des envoyés et à annoncer ce vin surnaturel. À annoncer ce vin surnaturel. Non seulement à l'annoncer, mais aussi à l'incarner, à le devenir, afin que les gens voient Christ aussi en nous. Et tu parlais de multiplication, Huguette. Et une chose que j'ai notée aussi par rapport à ce que Pierre Daniel a dit, il a parlé du réveil de Asbury, dont tout le monde a entendu parler dans le monde estudiantin, aux États-Unis. Il disait qu'il y avait une particularité au niveau de ce réveil, c'est qu'ils n'ont pas voulu le prolonger. Comme une fête de mariage est appelée à s'arrêter. Mais ce qui est important pour eux, c'est qu'il y ait une multiplication. Multiplication, que ce réveil se répande. Et nous aussi, on est appelés à répandre ce vin surnaturel autour de nous, et on est aussi encouragés à l'incarner. D'ailleurs, il y a un passage dans Osée qui dit « Ils auront la renommée du vin du Liban. » Et qu'on puisse, en tant que corps de Christ, avoir cette renommée du vin du Liban. Alors après, on peut dire « Ouais, mais comment faire ?» Alors moi, j'ai trouvé une fiche de route. J'ai l'impression que c'est un passage qui est très cher à notre frère Alain. Une fiche de route pour l'église locale qui peut amener cette dimension-là. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Communion fraternelle, dont j'ai parlé avant. Fraction du pain, prière, intercession. Il faisait beaucoup de prodiges et de miracles, dimension miraculeuse. Un peu plus loin, il rompait le pain dans les maisons et prenait leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Communion fraternelle dans des temps informels. Louant Dieu, louange, adoration, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Là aussi, cette bonté qu'on est appelé à manifester, comme ce monsieur Scott Harrison, comme ce monsieur décédé l'avait fait aussi. Bénir les gens autour de nous. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Évangélisation. Là, on voit toute une belle fiche de route en quelques versets. Je suis presque à la fin de mon message. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Mais par rapport à ce vin surnaturel, vous savez que ça s'est vraiment reproduit. Ça s'est produit, je ne sais pas si on a entendu parler, c'était, Johan, c'était en l'île de Timor, c'est près de l'Indonésie, n'est-ce pas ? C'est près de l'Indonésie. Vous avez déjà entendu parler de Meltari, son fameux livre, comme un vent violent, comme un souffle violent ? Comme un souffle violent. Et il dit qu'à un moment donné, donc des gens s'étaient retrouvés et voulaient fêter la Sainte Cène, mais ils n'avaient pas de vin. Et donc, ils ont eu cette conviction de prier et l'eau s'est transformée en vin. Alors après, on peut se dire, oui, bon, c'est un monsieur qui le raconte, il embellit peut-être les choses. Mais il faut savoir qu'un théologien décédé, qui s'appelle Kurt Koch, un théologien protestant, lui, donc c'était vraiment quelqu'un qui... aller sur place, qui analysait même tout ce qui était un peu surnaturel. D'ailleurs, il était allé voir en Suisse parce qu'il y avait des choses bizarres. Et lui, il voulait aller sur place par rapport à des phénomènes un peu même paranormaux. Lui, il dit, moi, je veux voir. Et il était là-bas et il affirme avoir été témoin de ce miracle à plusieurs reprises. Et ça, c'est quand même fort. Et autre chose aussi, autre anecdote que j'ai découverte, c'est un pasteur, Henry Groover, qui allait un jour à Jérusalem et il s'est assis sur un banc et il y avait à côté de lui un rabbin. Et je ne sais pas pourquoi, au fil de la discussion, il lui a parlé de cette poussière d'or, vous savez, qui tombe. Et, parce qu'à un moment donné, ça se manifestait beaucoup. Et là, il a été vraiment surpris par la réaction du rabbin. Le rabbin, tout de suite, il appelle sa fille et lui dit « Viens, 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 il faut que je te dise quelque chose. » Il y a de l'or qui tombe sur les gentils, sur les païens, le Messie va revenir. Il était là, hors de lui. Oh, viens, viens. Alors, le pasteur ne lui comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne comprenait pas pourquoi ce signe, c'était pourquoi il suscitait cette réaction-là chez ce rabbin. Et le rabbin lui a dit, vous savez, dans le passé, lorsqu'il y avait fiançailles, en tout cas, juste avant le mariage, le fiancé juif avait comme coutume de faire parvenir de l'or juste avant minuit, donc à sa future mariée, et après donc après ils allaient se rencontrer. Et donc lui il a fait le lien, il a dit voyez il y a ce signe de l'or quelque part qui veut dire que quelque part le fiancé va bientôt récupérer sa fiancée. Et ça, je me dis, wow, quand j'ai trouvé ça beau en tout cas, vraiment très très beau. Et d'ailleurs, effectivement, Rebecca, elle a reçu des objets d'or avant son alliance avec Isaac. J'avais fait quelques recherches par rapport à ça, parce qu'on est dans le cadre là, du mariage. Et dernier point, mon tout dernier point, et je cite le Jean de 10, et là c'est le maître de cérémonie des noces de Cana qui dit... Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. En gros, tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Et mais bien sûr que ça nous parle des noces de l'agneau, de cette réjouissance qu'on peut avoir. Là, il faut que je vous lise Ésaïe 25. Je trouve que c'est d'actualité. Il est dit, Ésaïe 25, verset 5, en plus c'est d'actualité avec la chaleur, comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Qu'est-ce que l'ange a demandé à Jean d'écrire ? Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, ça me réjouit toujours d'avoir une invitation à un mariage. Parce qu'on se projette. Alors, c'est pour ça que souvent, je dis à ma femme, je dis, oh, t'as pas de nouvelles là, de tes frères et sœurs là, parce que bon, il serait un peu temps qu'ils se marient. Donc voilà, parfois, je la relance. Moi, j'aime bien me réjouir. Et là, vous voyez, mais c'est une invitation qu'on nous tend, une invitation aux noces de l'agneau. C'est ça qui nous attend. Et quelque part, on peut se dire, j'ai envie de dire, on peut se dire tous les jours, j'ai reçu cette invitation de la plus belle fête, quelque part, de l'histoire de l'humanité, fête qui sera en plus éternelle. Et j'ai envie de dire que la Sainte Cène, c'est peut-être un peu gonflé ce que je vais dire, mais quand on prend la Sainte Cène, d'ailleurs, on prend le vin aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer ça un peu comme presque un apéro ? Un apéro, quelque part, de ce qui nous attend. Des prémices, en tout cas, de cette fête, de ce festin qui nous attend. Dernier verset, je vous le promets. Luc 22, 30, on est là dans la perspective du royaume messianique. Et là, Jésus dit à ses disciples qu'ils vont manger et boire à sa table, dans son royaume, et il leur dit qu'ils seront assis sur des trônes et qu'ils vont juger les tribus d'Israël. Et là, je me dis, tiens, mais c'est intéressant le programme qu'il leur donne, parce que qu'est-ce qu'il y a ? Tout d'abord, vous serez assis à ma table. Communion avec le Seigneur. Communion éternelle avec le Seigneur. Vous serez assis à ma table et vous serez assis. Pas une fois toi et demain ça sera toi. C'est tous ensemble. Communion fraternelle. Vous serez assis sur des trônes. Autorité. On sera assis. On ne sera pas debout. On ne sera pas nerveux. On sera assis. Le repos de la foi. Quatrième point. Juger les 12 tribus d'Israël, c'est aussi servir. Le service. Et je crois que voilà, c'est des dimensions que j'avais relevées, qu'on est appelé à vivre ici-bas. Communion avec Dieu, communion fraternelle, être au service. Ce sont des choses basiques, mais qu'on est appelé vraiment à approfondir dans notre vie, pour être ce bon vin pour les gens de notre entourage. Si on peut juste prier un instant. Alléluia. Alléluia. Père, moi je te remercie pour ta parole et je te remercie parce que tu nous as révélé aussi des choses que nous allons vivre. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce cœur d'enfant et être dans la réjouissance. À l'image d'un enfant à qui on annonce voilà, qu'il va aller dans son parc d'attractions préféré ou qu'il va vivre quelque chose d'extraordinaire, nous, on peut vivre cela au quotidien, cette réjouissance, cette conviction, cette certitude de savoir que nous sommes conviés aux noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont conviés au festin des noces de l'agneau. Et qu'on puisse être dans cette joie, qu'on puisse manifester aussi cette joie, comme ton serviteur Pierre Danel l'a dit, aussi à travers notre âme, notre esprit et notre corps aussi, qu'on puisse être dans l'émerveillement comme ses enfants, qu'on puisse être aussi dans une communion fraternelle solide, qu'on puisse que les valeurs du royaume soient vraiment enracinées dans nos cœurs, qu'il n'y ait aucun glissement, qu'on soit vraiment enraciné dans notre identité, qu'on puisse vraiment servir dans l'amour, dans la simplicité de cœur, sans rechercher des choses en retour, qu'il n'y ait aucune poussière venant de l'esprit religieux sur nos épaules, rien du tout. Et qu'on puisse aussi rester dans cette adoration, rester à ta table. C'est vrai que lors de noces, lors de mariages, il y a plusieurs aussi sollicitations, il y a plusieurs personnes qui peuvent nous appeler. Mais le plus important, c'est d'être à ta table, de recevoir ce que tu as à nous dire. Et à partir de là, comme l'a dit Huguette aussi, de nous multiplier, d'être envoyé. L'objectif, c'est de ne pas rester sur place. Les fêtes de mariage sont appelées à s'arrêter. Mais comme ces serviteurs qui ne vont pas rester sur place quand la fête est finie, mais qui vont rentrer chez eux et qui vont ensuite raconter ce qu'ils ont vécu. À l'image aussi des deux apôtres à qui on défendait d'enseigner le nom de Jésus. Et eux, ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas nous taire. Qu'on puisse être audacieux dans la foi, qui est cette folie de Dieu aussi, qui nous appelle aussi à faire des choses que nous ne pourrions même pas imaginer, comme chercher voilà, une pièce dans la bouche d'un poisson, remplir d'eau des jarres, et alors que c'est du vin dont les gens ont besoin, des choses parfois qui nous paraissent insensées, mais qui viennent de toi. Que on ait vraiment, que nos paradigmes aussi puissent quelque part, que les limites de nos paradigmes, de nos perspectives, de notre horizon puissent aussi quelque part exploser afin de recevoir pleinement aussi les choses qui viennent de ton esprit et que l'homme naturel, l'homme charnel ne peut pas comprendre. Oui, Seigneur. Merci à toi, toute la gloire, Père. Et merci, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui as non seulement transformé l'eau en vin, mais qui a fait en sorte que cette fête se termine en beauté. Sinon, la famille aurait peut-être pu être dans la honte et ça aurait pu finir de manière catastrophique. De la même manière et de manière encore plus glorieuse, tu as quelque part amené ton sang devant le Père. Tu t'es donné pour qu'on puisse célébrer éternellement cette communion avec Dieu le Père. Et ça, c'est un festin qui est éternel. Amen. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.